Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement Afrique-Caraïbes et Pacifique est déjà un mécanisme qui avait été mis sur pied dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et cette coopération Sud-Sud devait faire en sorte que les pays de l'hémisphère Sud coopèrent entre eux afin de constituer une même voix face, disons, pendant les négociations face aux pays du Nord. Et il se trouve que les ACP ont beaucoup plus vu à travailler avec l'Union européenne dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale surtout. Mais il se trouve que, chemin faisant, plusieurs Africains aujourd'hui se posent la question, ou plusieurs habitants de l'hémisphère sud, que ce soit les habitants des Caraïbes, des pays qui bordent le Pacifique ou des pays africains, tout ce beau monde se pose la question sur l'impact réel de la coopération
Oui,
entre
justement, je vous repose la
les
question. Quel est cet
ACP et l'Union
impact-là?
européenne.
Quel est l'impact,
Bon, en fait,
justement?
l'impact était attendu beaucoup plus sur le développement économique. Aujourd'hui, on a quitté le concept des pays du tiers-monde au concept des pays en voie de développement. Et aujourd'hui, tout le monde l'orge vers l'émergence, sans pour autant qu'on ne fasse le bilan si effectivement, du tiers-monde aux pays en voie de développement, il y a eu effectivement un chemin positif. Et la plupart des pays ont fixé le cap vers l'émergence autour des années 2025, 2030, 2035. Mais or, on sait qu'on ne fixe jamais le cap d'un stade de développement. Il faut que les signes de ce stade-là soient visibles. Et c'est à ce niveau qu'on se pose la question sur les questions de développement entre les ACP et d'autres partenaires, que sont par exemple l'Union européenne ou les pays de l'Amérique du Nord. Enfin,
Oui.
ceci dit en passant, les pays occidentaux, la triade, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Union européenne et puis le Japon. Voilà pourquoi aujourd'hui on se perd un peu en conjecture et on se pose bien la question de savoir si aujourd'hui cet impact est positif.
Oui, l'autre volet hein, de ce partenariat ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique, c'est également le volet gouvernance. Est-ce que les impacts hein, de ce volet gouvernance se ressentent sur le terrain? Est-ce que par exemple un pays comme le Burundi ou la RDC peut constater ces impacts-là concrètement, c'est-à-dire en termes de sanctions ou en termes de gel des avoirs? Est-ce que ces impacts-là ont des effets?
En fait, le concept de gouvernance est relatif à plusieurs volets. Vous avez la gouvernance économique et sociale, vous avez et surtout la gouvernance politique avec obligations faites au niveau du respect des standards de la démocratie. Mais il est aujourd'hui évident qu'au regard des problèmes politiques dans les pays africains, par exemple, il y a beaucoup plus nécessité à accorder du regard au niveau de la gouvernance politique. Or, à ce niveau, vous savez qu'on ne peut pas avoir de développement économique s'il y a une certaine instabilité politique avec les conflits de toutes parts. Et à partir de là, je pense que le processus de construction communautaire, c'est-à-dire les intégrations régionales en cours, ont beaucoup plus mis l'accent dans la nécessité de régler les conflits là où ils ont été déclenchés et d'essayer de les endormir là où ils sont latents. Et donc, du coup, la gouvernance politique prend donc le pas sur le développement économique. Et aujourd'hui, je pense que pour faire face à cette gouvernance économique, on a, par exemple, préconisé les sanctions pour des régimes qui manifestent peu d'empressement au respect des standards de la démocratie. C'est le cas,
Oui,
par
mais
exemple,
est-ce que vous ne, est-ce
d'un
que vous,
certain nombre de pays, mais
oui,
oui.
est-ce que vous ne pensez pas que le mécanisme ACP-UE est assez laxiste, justement, dans la procédure de prise de sanctions contre des pays qui ne respectent pas les standards en matière de gouvernance économique ou politique?
Naturellement, il y a un certain laxisme de la part de ces institutions, notamment les ACP, mais il faut dire que lorsqu'on prend des sanctions, il faut donc se poser la question, quelle est l'efficacité de ces sanctions et qui en souffre le plus? Moi, j'ai, de mon point de vue, l'impression que ceux qui en souffrent le plus de toutes sanctions imposées, ce sont beaucoup plus les peuples qui veulent l'alternance et la démocratie. Ce ne sont jamais les gouvernants. Vous prenez le cas de l'embargo imposé à la Libye, c'est beaucoup plus les Libyens lambda qui en avaient souffert à l'époque de Muammar Kadhafi. Vous pouvez prendre le cas du gel des avoirs d'un certain nombre de hiérarques dans un pays, notamment au Burundi ou bien d'autres pays. Mais en fait, lorsqu'on prend des sanctions économiques face à un régime, ces sanctions économiques sont beaucoup plus ressenties au niveau du secteur économique du pays ou au niveau même du peuple lambda qui en souffre un peu plus. C'est pourquoi je pense qu'il est aujourd'hui important de se poser la question si les sanctions que l'on prend vis-à-vis d'un gouvernement sont efficaces par rapport à la vision qu'on voudrait imposer à ce gouvernement-là.
Ouais.
Non, dans le cas contraire, si on fait une évaluation et qu'on se rend compte que ces sanctions sont beaucoup plus de nature à faire souffrir le peuple lambda par rapport aux dirigeants du pays, je pense qu'il faut donc changer la ligne des mires, il faut changer de trajectoire à ce moment-là pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir entrer dans une véritable gouvernance politique.
Oui, autre sujet débattu donc par les partenaires ACP-UE, c'est le flux migratoire entre donc les pays d'Afrique en direction donc de l'Europe. Est-ce que vous pensez que des mesures concrètes sont prises par l'Union européenne pour justement faire régresser ce flux migratoire?
Vous savez, ce qui arrive à l'Union européenne aujourd'hui avec cette histoire de flux migratoire est la conséquence de la politique que les pays européens ont menée dans les pays du Sud, notamment en encourageant les dictatures au pouvoir. Parce que les pays de l'Union européenne doivent comprendre que l'argent que ces dictateurs vont investir au sein de leur pays en Europe appauvrit de plus en plus les pays africains au point que les peuples sont dans la misère et du coup ces peuples ont tendance toujours à migrer vers l'Europe pour trouver des bonnes conditions de vie et d'existence. Donc je pense que les pays européens devraient faire en sorte que la gouvernance politique soit de mise avec le respect des standards de la démocratie qui doit se matérialiser à chaque fois par une alternance politique et démocratique au pouvoir. Mais le fait d'encourager les dictatures à rester au pouvoir au point d'avoir aujourd'hui des gouvernements permanents ou des gouvernements perpétuels, faire en sorte qu'en plus qu'ils acceptent de l'argent qui est investi dans les pays de l'Union européenne. Et du coup, cela crée un appel d'air au niveau des pays africains et dont les Africains pensent que le meilleur des mondes possibles, c'est l'Europe où on peut trouver meilleures conditions de vie. Et du coup, ça crée la pauvreté en Afrique. Donc, il faut aujourd'hui que les pays européens encouragent le renfermissement de la démocratie à sortir des alternances politiques et démocratiques. Et puis que, finalement, ces pays prennent des mesures. Je sais que ça a déjà été pris dans ce sens par une certaine directive de l'Union européenne de refuser le blanchiment de l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que cet argent qui a été investi en Europe par des dictateurs africains ou des dictateurs des pays du Sud, que cet argent retourne dans ces pays pour que finalement il soit investi, qu'on crée des entreprises et qu'on crée des meilleures conditions de vie et d'existence pour les populations africaines. Mais tant que ce n'est pas fait, l'Europe, c'est juste 10 millions de kilomètres carrés. Mais si ce continent doit recevoir un afflux massif des migrants du Moyen-Orient avec ce qui se passe en Iran et puis et bien dans d'autres pays, et puis en Afrique aussi, je pense que l'Europe pourrait très vite, d'ici 20-25 ans, se retrouver débordée. Vous savez, en Afrique, c'est plus de 65% de la population qui est constituée des jeunes de moins de 30 ans. Et donc, du coup, ces jeunes font un rêve. Mais si ce rêve n'est pas réalisé au sein de leur continent le plus proche, c'est l'Europe, et malheureusement, tout le monde aura tendance à vouloir migrer vers l'Europe. Donc, il est aujourd'hui important que, dans le partenariat Afrique-Caraïbes et Pacifique, et l'Union européenne, que l'Union européenne prenne des mesures qui fassent que ces pays du Sud ne connaissent plus une instabilité politique avec des acteurs qui veulent durer au pouvoir ad vitam aeternam, et donc qui créent donc des problèmes économiques et sociaux au niveau de ces pays. Responsable donc des vagues de migration vers l'Europe.
Ouais. Selon l'accord de Cotonou qui définit le partenariat entre les pays ACP et l'Union européenne, et bien selon donc cet accord de Cotonou, ce partenariat est valable jusqu'en 2020. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de réévaluer ou bien de renouveler un peu les grands axes de ce partenariat si jamais ce partenariat devait se poursuivre?
Oui, quelle que soit la durée, le mandat d'un accord, il est quand même nécessaire de faire une évaluation en bout de chemin, c'est-à-dire voir ce qui a été réalisé, ce qui ne l'a pas été, ce qui est moins bien, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Donc je pense que même si l'accord de Cotonou doit durer jusqu'en 2020, mais il n'est pas exclu que les ACP, l'Union européenne, fassent à chaque fois une évaluation de cet accord pour voir les points forts, les points faibles. Et c'est à partir de cette évaluation qu'on verra s'il faut proroger l'accord ou bien s'il faut arriver jusqu'à terme et pourquoi pas s'il faut voir en termes d'investissement, en termes d'aide de coopération, en termes d'aide multi ou bilatérale, ce qui a été réalisé. Mais je pense que toute évaluation est nécessaire dans un cadre coopératif de ce genre.